Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
OK, Bernie Madoff, OK, ouais, c'était son nom. C'était un financier américain, s'occupait des fortunes de riches New-Yorkais. Ben, tout ça était un écran de fumée. C'est un des plus célèbres fraudeurs aux États-Unis dans l'histoire récente. Il est décédé aujourd'hui.
Oui, et il avait utilisé le scheme le plus de base de l'histoire de la finance, c'est-à-dire le Ponzi, c'est-à-dire faire croire à des gens qu'ils font du rendement en prenant l'argent des déposants, évidemment pendant la crise financière. Les gens voulaient avoir leur argent. Il n'y avait plus de déposants vraiment par rapport aux gens qui voulaient sortir l'argent. Et donc, il s'est fait prendre. Et c'est quand même drôle parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient impliqués. Il y avait des fonds. Il y avait Kevin Bacon, l'acteur, Patrick, qui s'était fait
avoir. Ah oui, qui était là-dedans?
Kevin Bacon. Oui, il a perdu un peu de bacon. Excusez.
Je l'avais dit que t'étais drôle.
Oui, je sais, mais dans moi-même, avec moi-même. Et il y avait un gars qui s'appelait Harry Markopoulos qui lui a dit à la Security and Exchange Commission en 99, il dit, écoutez, je trouve ça un peu bizarre. Ses rendements par rapport à ce qu'il déclare posséder ne sont pas logiques. Ça se peut pas que son fonds fasse ces rendements-là. Et finalement, après la découverte du scandale, on a dit finalement cet homme-là avait sonné l'alarme et personne n'en avait parlé. Et ça me rappelle, Patrick, qu'au Québec, on en a eu des petits Madoff aussi, là. Des cas comme ça, il y en a eu plein.
Vincent Lacroix.
Vincent Lacroix, qui est plus du genre, lui, à avoir détourné des fonds.
Oui. Earl Jones.
Earl Jones, qui, lui, il était même pas inscrit à l'autorité des marchés financiers, mais il y avait un réseau de personnes riches alentour de lui, puis il y avait, pendant des années, joué avec leurs fonds. Carole Morinville, qui avait fraudé pour 3,5 millions. Vincent Lacroix. Il y a aussi une autre affaire un peu moins connue qui est Mount Real. C'est arrivé à l'époque de Vincent Lacroix, un peu après, donc. Mais c'était Lino Matteo, et c'était une espèce de, disons, de compagnie qui avait tellement de compagnies là-dedans qu'encore une fois, on avait floué des gens, et finalement, il y avait de l'argent qui avait été perdu. Mais c'est dire à quel point tout ça est basé sur la confiance envers quelqu'un. Et Patrick, il y a un sujet dont on avait traité, toi et moi, c'est le fameux cercle de dons. Donnez-moi 5 000, vous aurez 40 000.
En Montérégie. Là.
Bon, puis ça s'est promené un peu partout au Québec après.
C'est le cercle de dons par opposition à la pyramide.
Oui, c'est la forme qui changeait tout. Patrick, c'est pas une pyramide, c'est un cercle. Alors, mais il y avait eu beaucoup, j'avais eu des menaces à cette époque-là, des courriels en me disant « Tu comprends rien, tu connais rien, c'est la bonté des gens qui fait que le 5 000 se transforme en 40 000. » Mais non. Donc, il y a souvent ça derrière, hein, une relation de confiance envers quelqu'un au départ. Et personne n'est vraiment à l'abri. Et je te donne un exemple, quelqu'un me disait « Fais-moi confiance avec mes affaires, je frauderai pas. » Je dis « Non, tu as la possibilité de frauder, donc je dois t'enlever une tâche pour qu'il n'y ait pas de conflit de tâches. » C'est-à-dire, je peux te sous-traiter une activité financière si et seulement si tu ne fais pas telle autre activité financière, ce qui fait en sorte que jamais je me retrouverai dans la première page du Journal de Montréal en m'étant fait frauder par un manque de contrôle. Donc, tu vois, ça, c'est important aussi. Mais bon, ce qu'on voulait souligner, c'est la mort de Bernard Madoff et de dire, si vous avez de l'argent, vérifiez que la personne est inscrite auprès de l'autorité des marchés financiers et suivez vos affaires. C'est tellement triste de se faire frauder, rendu à la retraite avec 300-400 000 d'actifs et se faire dire, ben, tu sais quoi, on a joué avec ton argent puis tu vas en perdre une partie ou la totalité.
OK, parle-moi de l'entrée remarquée en bourse de Coinbase.
Ouais, Coinbase, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies, si tu veux. Tu peux acheter plein de choses là-dessus. Et évidemment, c'est une entreprise qui est maintenant cotée en bourse. Évidemment, je vais te faire un parallèle avec d'autres entreprises. La première journée en bourse, c'est souvent une journée où il y a beaucoup de spéculation, de montée, de descente. Puis c'est un bon exemple, celui-là. Écoute, on disait hier un prix de 250 de départ, dollars. On a monté aujourd'hui à 430. On est redescendu à 330. Donc, il y a des gens qui sont entrés et sortis aujourd'hui pour faire de l'argent, que ce soit des gens qui sortent parce qu'ils étaient investisseurs privés au départ ou des gens qui voulaient juste faire de l'argent en une journée. On voit qu'il y a des spéculateurs. Et pourquoi je fais toujours attention aux premières journées? C'est parce que l'histoire nous démontre que c'est très volatile. David Stee n'a jamais refait son argent depuis la première journée. Uber, ça a pris de 2019 à 2020 pour qu'on retrouve le prix de l'entrée en bourse. Si on regarde d'autres compagnies comme Beyond Meat, qui a été spectaculairement à la hausse après l'entrée en bourse, ça en a été une qu'il y a des gens qui ont fait de l'argent. Mais rendu au mois de septembre, octobre 2019, ça a replanté, puis depuis ce temps-là, ça vivote un peu autour d'une certaine valeur. Snowflake, qui pendant la pandémie a attiré beaucoup de monde, finalement a fait un gros pic de valeur vers décembre, puis après ça, bien, ça a redescendu en bas de la valeur d'ouverture. C'est comme quoi, les premières journées en bourse, Patrick, les premiers mois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de volatilité. mais les investisseurs sérieux ou institutionnels souvent attendent 6 mois à 1 an parce qu'ils se disent il y a des néophytes, il y a des gens qui perdent de l'argent par la suite ou qui en gagnent beaucoup, mais ça ne représente pas le fondamental. Je te donne d'autres exemples. Facebook, en 2012, ça entre en bourse. Dans la première année, ça a chuté de moitié. Et c'est à partir de 2013 que là, ça a été payant de façon spectaculaire. Jusqu'en 2018, c'était une progression constante. Pinterest, entré en bourse en avril 2019, ça a pris jusqu'en juillet 2020 pour que le titre commence à grimper fortement. Donc, à long terme, il y en a beaucoup qui finissent par être de bons placements. Mais la première journée, c'est de l'excitation. C'est comme si tout le monde cherchait la nouvelle affaire, puis qu'il fallait des fois regarder ça passer, puis des fois sauter sur l'occasion. Mais c'est pas un pari garanti.
Très bien, on s'en parle demain. Merci, Pierre-Yves.